Alors, ce n'est pas précisément une tombe, mais notre invité ce matin a une parole assez rare dans les médias, sauf en cas de situation urgente ou critique. Au sein de la gendarmerie du nucléaire, il est allé le lieutenant-colonel. Bonjour Pierre-Franck Chevet.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes le président de l'autorité de sûreté nucléaire. Merci d'être avec nous sur France Culture. C'est vrai que vous ne vous exprimez pas souvent à froid, comme on dit d'un réacteur à l'arrêt. Nous avions envie de vous entendre sur plusieurs sujets qui concernent l'industrie nucléaire en France aujourd'hui, que ce soit le rapport de la commission d'enquête parlementaire qui a dit son inquiétude sur l'état du parc à la fin juin, les incidents et malfaçons que vous ne cessez de déplorer depuis des années, quand ce n'est pas à Fessenheim, c'est au Tricastin, au Bugey ou ailleurs, et vraisemblablement ça n'en finit pas. Et puis il y a le nouveau retard annoncé par EDF sur le chantier de l'EPR de Flamanville. Alors pour qu'on comprenne bien le sens de vos paroles et aussi de vos silences, parce que peut-être que vous ne pouvez pas tout dire, la question nucléaire est très politique et ça fera l'objet de nos discussions un peu plus tard, mais quelle est la place de l'ASN dans la chaîne de contrôle du nucléaire en France?
Nous sommes chargés du contrôle, nous sommes ce qu'on appelle une autorité indépendante. Nous ne dépendons pas de tous ceux qui portent une vision de la politique énergétique, pro-nucléaire, anti-nucléaire.
3 commissaires sur 5 sont nommés par le président de la République.
3 sont nommés par le président de la République. Le président, moi-même, est nommé après audition par le Parlement. Il faut que le Parlement valide cette nomination. Et 2 autres sont nommés, un par l'Assemblée, le président de l'Assemblée nationale, un par le Sénat. Autorité indépendante, ça veut dire effectivement que nous sommes indépendants de tous ceux qui portent une vision, pro ou anti-nucléaire, et nous rendons compte fondamentalement au Parlement et au travers du Parlement, nous rendons compte à nos concitoyens, puisque notre mission, c'est de contrôler les activités nucléaires de tout type. On va sans doute beaucoup parler de réacteurs nucléaires, par exemple, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les activités médicales. Et fondamentalement, notre mission, c'est de protéger les personnes et l'environnement des risques liés à ces activités.
Vous pouvez être la bête noire des industriels. En tout cas, certains trouvent que vous avez beaucoup trop de pouvoir comparé, par exemple, aux États-Unis où l'autorité de sûreté doit justifier de l'intérêt économique de toutes les mesures qu'elle exige. Mais quand la commission d'enquête créée à la demande de la députée écologiste Barbara Pompili et qui a remis ses conclusions il y a un mois dit qu'elle veut plus d'experts indépendants à l'ASN, qu'est-ce qu'elle veut dire ?
Elle a raison d'abord. On a été auditionné 2 fois par cette commission. Une première fois au début, une deuxième fois plutôt à la fin en phase de conclusion. Effectivement, la recherche d'experts indépendants, ce que nous sommes aussi, mais globalement le fait qu'en notre sein, on est à peu près 1000 personnes pour exercer ce métier de contrôle au sein de l'ASN et de notre appui technique, la recherche d'experts, indépendants fait partie de nos tâches, de manière à assurer un jugement juste sur les activités nucléaires et sur la sûreté de ces activités.
Donc vous êtes chargé de vérifier que tout se passe dans ces centrales selon les normes édictées, normes que vous ne remettez pas en cause par ailleurs. Vous procédez comment? C'est des visites surprises?
D'abord, une partie de ces normes est faite par nous-mêmes. Il y a une partie qui relève de la loi, et puis ensuite il y a tous les textes subséquents, mais toute la partie technique de ces règles est faite par nous-mêmes, et par ailleurs nous contrôlons. Donc nous sommes gendarmes, vous l'avez dit au début, j'assume pleinement le mot évidemment, mais nous faisons aussi une partie du code de la route, et notamment la partie la plus technique. Concrètement, on fait des inspections sur les sites où il y a ces activités nucléaires, donc vous parliez des réacteurs, notamment les réacteurs, on en fait à peu près 2000 par an. C'est des inspections assez lourdes, c'est 4 à 5 personnes sur place qui peuvent se rendre où ils veulent dans les installations, et ça dure à minima une journée. On a des formats beaucoup plus lourds encore, on a plutôt plus d'une dizaine de personnes sur 2 semaines. Et il y en a 2000 à peu près par an qui nous permettent de voir la réalité de terrain, et pas simplement, évidemment, des dossiers.
Des dossiers, et vous devez quand même en éplucher des centaines et des milliers de dossiers, notamment ceux qui sont remis par l'IRSN, qui est en quelque sorte votre bras armé, l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire. L'IRSN se prononce sur des rapports, vous fait part de ses conclusions, les rapports sont fournis par les exploitants, et ce qui pose problème, forcément, c'est quand les documents fournis sont faux. 2016, l'affaire des dossiers barrés du Creusot, le chaudronnier qui travaille pour Areva, et notamment sur l'EPR de Flamanville, avait falsifié des centaines de dossiers. Comment vous vous en êtes rendu compte?
On s'en est rendu compte parce que nous avions demandé, j'avais demandé à Areva à l'époque, pour reprendre l'ancien nom, on avait un certain nombre d'anomalies techniques qui n'étaient pas gravissimes, qui avaient été mises en évidence, mais en même temps il y en avait une ou deux qui étaient là, Et donc j'ai demandé à Areva de faire un audit qualité des fabrications depuis en gros un peu plus d'une dizaine d'années. Cet audit a été fait, c'est lui qui a mis en évidence le fait qu'il y a eu potentiellement ce qui s'apparente à des falsifications, donc des dossiers de fabrication qui avaient, ou a priori. Alors je prends des précautions en disant s'apparente à des falsifications parce que c'est une qualification pénale. Et ces faits, nous les avons signalés à la justice et la justice est en train de faire son travail.
C'est en cours. Ça concernerait combien de centrales? Parce que ce chaudronnier Le Creusot ne fournissait pas ou ne travaillait pas que pour l'EPR.
Ah non, pas que pour l'EPR. Initialement, effectivement, la question était plutôt centrée sur des anomalies susceptibles de concerner l'EPR, mais les potentielles falsifications mises en évidence datent de fabrication qui remontent parfois jusqu'à plus de 50 ans. Et donc, du coup, ça, potentiellement, en tout cas au début, ça pouvait concerner à la fois des fabrications des réacteurs nucléaires français, ou même des installations plus largement françaises, mais aussi à l'étranger. Parce que Le Creusot est une usine de réputation internationale et ayant eu des clients par le passé un peu partout. Et donc la vérification a été faite, c'est ce que nous avons demandé quand nous avons mis en évidence le sujet. Tous les dossiers sont en train d'être lus, on est plutôt sur la fin d'ailleurs, page à page. C'est plusieurs millions de pages qui sont relues pour essayer d'identifier des anomalies ou des potentielles falsifications.
Alors, tous les jours, par ailleurs, tous les jours ou presque, en tout cas régulièrement, on découvre dans les centrales, sur les réacteurs, on découvre des fissures, on découvre que certaines pièces majeures contiennent trop de carbone, ce qui les fragilise. Il y a aussi ces milliers de fissures mises en évidence dans des cuves en France et en Belgique dues à la présence de bulles d'hydrogène enfermées dans le métal. Or, jusqu'à ce que ces fissures soient découvertes, les scientifiques n'avaient pas anticipé que l'hydrogène puisse faire de tels dégâts. Donc, vous devez toujours... La question de l'anticipation du risque, elle est régulièrement au cœur de votre travail. Est-ce que l'homme a anticipé ou pas?
Par principe, il faut tout le temps se poser des questions. Jamais poser que la sûreté est assurée. Toujours se poser des questions, aller vérifier tel point, même si on a plutôt la garantie ou le sentiment, en tout cas, que les choses sont OK. On pose quand même des questions, on demande des vérifications. Ça doit être l'attitude que, alors évidemment, celle du gendarme du nucléaire que je suis, mais aussi celle des exploitants au premier chef, premier responsable de la sûreté de leurs activités. Se poser des questions. Après Fukushima, pareil, ça a été le questionnement. On n'a pas, par exemple, de potentiel tsunami en France. C'est pas la situation géographique fait que la probabilité est faible. Et alors on aurait pu s'arrêter là, par exemple. Et dire, il n'y a pas de sujet. Ce qu'on a essayé de faire, par exemple, après Fukushima, pour illustrer le questionnement, c'était de se dire, fondamentalement, pour les Japonais, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont eu à faire face à quelque chose auquel ils n'avaient pas pensé, plus important que ce à quoi ils avaient pensé. Et on s'est posé la question, comment faire se poser des questions face à des événements que nous n'imaginons pas, mais nous les avons postulés. Alors par exemple, je prends le raisonnement Fukushima pour illustrer, quand un réacteur nucléaire a un accident, il faut pouvoir mettre de l'eau pour le refroidir le cœur du réacteur. Quelle que soit la cause, mais en gros on en arrive là. Et pour faire face à ce genre de situation, il faut d'abord une source d'eau, il faut des tuyaux, et il faut des pompes pour amener l'eau là où on veut. Voilà, c'est comme ça qu'on a raisonné, sans même imaginer un scénario catastrophe particulier.
Mais même sans imaginer un scénario catastrophe particulier, vous avez dû lire dans Libération récemment cette tribune de Corinne Lepage qui écrivait « Le réacteur numéro 2 de Fessenheim et ses générateurs de vapeur ne respectent pas les normes. Il ne se passe pas deux semaines sans qu'un incident grave ne soit relevé à Tricastin, Cruas ou au Bugey. » C'est pourquoi? Parce que l'ASN n'a pas le temps d'être sur tous les fronts, parce que vous ne pouvez pas être partout, vous ne pouvez pas tout superviser en même temps?
Non, mais le fait, il y a parfois des anomalies, il y a parfois des incidents. Et c'est, j'allais dire, c'est presque une bonne chose. Ça veut dire simplement que ces choses-là sont vues et peuvent être traitées. Et c'est comme ça que la sûreté, fondamentalement, s'améliore. C'est en traitant chaque petit défaut, chaque écart. Et c'est comme ça, in fine, que la sûreté s'améliore. Une situation où il n'y aurait pas d'anomalie, pas d'incident, où tout paraîtrait bien, serait extraordinairement dangereuse.
Parce qu'on baisserait de la garde.
Parce que ça veut dire qu'on ne regarderait pas. Oui, et qu'on dirait pas les choses et donc on les traiterait pas.
Mais au sujet de la sûreté nucléaire...
Alors par ailleurs, je reviens sur cet article que vous mentionnez. Concernant Fessenheim 2, nous avons autorisé explicitement le redémarrage de l'installation.
En avril.
Après justement à vérifier que la situation était dans les normes et non pas hors normes. Concernant Tricastin, il y a eu des incidents. Il y en a un qui nous a amené à arrêter la centrale, 4 réacteurs. Pendant un peu plus de 2 mois, c'était l'année dernière. Les travaux ont été faits à notre demande. À la redémarrer.
Alors, vous avez récemment, en novembre dernier, lors d'une audition au Sénat, Pierre-Franck Chevet, vous avez dit votre préoccupation, non pas dans l'immédiat, mais pour les années à venir, au sujet de la sûreté nucléaire. Alors, à quelle échéance vous êtes préoccupé ?
Il faut peut-être juste faire un bout d'histoire. L'industrie nucléaire en France a été globalement mise en service, enfin tous les réacteurs, mais pas que les réacteurs, ont été mis en service dans les années, fin des années 70, début 80. Et le tout à haute dose. Il y a certaines années en France, dans les années 80, il y avait 6 réacteurs qui démarraient. C'est énorme. Et on est 40 ans après. Et ça veut dire que les installations dont on parle, le parc industriel nucléaire en France, arrive vers ses 40 ans. Et donc, il a vieilli, par définition. Et du coup, la question de sa prolongation se pose. C'est un enjeu industriel énorme. C'est aussi un enjeu de sûreté, évidemment, de savoir si oui ou non et dans quelles conditions on peut prolonger ou étendre le fonctionnement de ces installations.
Mais c'est la fameuse durée de vie de 40 ans. Qu'est-ce qui a autorisé les exploitants ? Alors, Fessenheim, par exemple, a été mise en service en 78, donc en toute logique devrait fermer cette année. Or, rien n'est prêt. Pourquoi est-ce que par exemple, aujourd'hui, les experts disent qu'on peut aller au-delà, comme si la médecine des centrales avait fait des progrès, sauf que la médecine ne peut pas de miracle et les centrales non plus ne sont pas immortelles.
Alors, dans la loi française, il n'y a pas de limite à la durée de fonctionnement des centrales. Par contre, il y a une règle qui est très claire, c'est tous les 10 ans, on revérifie qu'on peut aller 10 ans de plus.
La visite décennale.
Donc il y a un check-up, en clair. Un check-up, non seulement un check-up de vérification que les choses sont conformes, il n'y a pas eu de vieillissement, mais aussi un check-up et des améliorations de sûreté. De regarder comment on peut améliorer la sûreté. Donc c'est ça qui est fait sur l'ensemble des centrales, Fessenheim parmi elles, bien entendu, mais sur l'ensemble des installations nucléaires, même plus généralement. Simplement, nous arrivons plutôt vers les 40 ans. 40 ans, c'était l'hypothèse qui avait été prise pour calculer et vérifier que ça tenait pour cette durée. Simplement, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas aller plus loin. Simplement, il faut le vérifier. Et 40 ans, aujourd'hui, l'amélioration de sûreté qui est visée pour ces réacteurs anciens, c'est typiquement le niveau de sûreté de l'EPR, l'EPR qui est le nouveau réacteur en construction à Flamanville.
Mais prolonger un peu, ça ne veut pas dire ad vitam aeternam. J'avais moi cru comprendre que la question c'était plus de savoir si les centrales fermeront, mais quand aujourd'hui.
Alors c'est pas ad vitam aeternam, très clairement. Moi je n'imagine pas aujourd'hui d'aller au-delà de 60 ans. Actuellement la demande qui est sur la table formulée, c'est pour passer de 40 ans, pour faire simple, à 50 ans. Donc c'est ça qui est en cours d'instruction à l'ASN, on a un certain nombre de dossiers, certains doivent encore arriver venant de l'exploitant, pour justifier et surtout proposer des améliorations de sûreté qui permettent d'envisager positivement ces 10 ans de plus.
Mais donc au bout de 50 ans, on va dire à 60 ans, et puis 70 ans, 80 ?
Non, je viens de dire qu'au-delà de 60 ans, je ne le sentais pas du tout.
Donc après, ça c'est quoi ? Ça fermera ? Des centrales, des réacteurs ont fermé en France sans qu'on sache
jour,
vraiment ?
Oui, à coup sûr.
À coup sûr, ça fermera. Bon, l'autorité de sûreté nucléaire doit rendre là-dessus une position en 2020, mais Nicolas Hulot dit que le ministère de l'Environnement rendra ses propres conclusions l'année prochaine. Quelles informations aura-t-il que vous n'auriez pas ? C'est surprenant comme calendrier.
Le gouvernement est dans son rôle de faire de la politique énergétique. Il peut, à raison de considérations de politique énergétique, prendre des décisions d'arrêt. Simplement, il y a une condition de toute manière préalable, c'est que, en termes de sûreté, nous ayons autorisé, ou pas d'ailleurs, le fonctionnement. Et c'est, je dirais que c'est deux types de décisions qui sont indépendantes. Je le disais, on est autorité indépendante. C'est une très bonne illustration, la question que vous me posez est une très bonne illustration.
Pierre-Franck Chevet, vous êtes également à l'ASN compétent sur la question de l'enfouissement des déchets, et notamment de Bure. L'ASN a qualifié en janvier le dossier de l'Andra de très bon, tout en lui demandant de revoir sa copie à propos de 40 000 colis de déchets bitumés, c'est comme ça qu'on les appelle, donc c'est pas si bon que ça.
C'est en l'occurrence... Alors, vous me parlez d'un sujet, la gestion des déchets. Vous parlez d'enfouissement, donc vous parlez des déchets les plus nocifs. Il y a toute une palette de types de déchets radioactifs. Le but général sur ces sujets-là, c'est que pour chaque type, les plus nocifs, mais aussi les moins nocifs, certains qui sont moins nocifs...
Ce que vous appelez les plus nocifs, c'est de haute activité.
De haute activité, à vie longue surtout. Mais il y a aussi des déchets beaucoup moins nocifs, que chacun ait une filière de gestion sur le long terme. Alors, pour ce qui concerne les déchets les plus nocifs, susceptibles d'être traités dans l'installation qu'on a qui s'appelle CIGEO, donc en stockage géologique souterrain, nous sommes prononcés sur les options de sûreté. C'est en gros les grandes règles de sûreté qui s'appliqueraient à cette future installation. Et la principale disposition de sûreté pour les stockages géologiques souterrains, c'est fondamentalement la qualité du sol, la géologie. En l'occurrence, pour CIGEO, il s'agit d'argile. Et l'argile qui était pressentie comme étant bonne en l'occurrence, et c'est pour ça qu'on cherchait aux alentours de Bure, c'est confirmé comme étant vraiment bonne. Et c'est la principale caractéristique de sûreté qui fait et fera la sûreté de l'installation. C'est ça que nous avons dit. Et en même temps, nous avons rajouté que pour certains déchets, les déchets bitumés, où il y a du bitume en clair, parce qu'ils avaient un potentiel calorifique, ils pouvaient créer un incendie ou s'enflammer au contact d'un incendie venant d'ailleurs, que là, il y avait un sujet et que dans tout état de cause, ils ne descendraient pas tant que nous, on ne sera pas convaincus qu'on peut le faire en toute sûreté.
Donc vous êtes prononcé sur les options de sûreté, mais pas sur les options de gestion de déchets, parce qu'en réalité, il y aurait eu plusieurs options si dans les années 90, on avait fait le choix politique de se diriger particulièrement sur la question de l'enfouissement. Vous dites aujourd'hui que l'enfouissement, c'est pour l'instant la seule solution raisonnable. Est-ce que vous avez eu connaissance de cette thèse de cet historien des sciences qui a passé 3 ans à l'ANDRA, qui a eu accès à toutes les archives et qui a montré... Alors, c'était pas une thèse à charge, c'était vraiment un travail sociologique, mais qui a montré comment les experts de l'ANDRA travaillent sur la manière d'administrer les preuves de la sûreté des projets de stockage. Et c'est toute une histoire des pratiques mobilisées par l'ANDRA pour montrer la sûreté des projets de stockage des déchets nucléaires.
Oui, on en a eu connaissance. Alors, après qu'elle a été rédigée, mais c'est une thèse qui a été faite à l'initiative avec l'appui de l'ANDRA. Et mon premier commentaire, c'est de dire que le fait qu'un organisme, en l'occurrence un établissement public, est chargé de porter le projet CIGEO, prenne l'initiative de tels travaux, je trouve ça positif. Parler d'esprit de questionnement, ça fait partie de ce que j'encourage, moi, pour en termes de sûreté.
Beaucoup de chercheurs disent qu'ils ont les portes ouvertes à l'ANDRA, oui.
Et c'est important. Juste un point pour nos auditeurs, qu'il est important de comprendre, les déchets dont on parle sont des déchets qui ont une nocivité sur 100 000 ans. 100 000 ans. Il y a beaucoup de choses qui sont concevables en matière de sûreté, des installations plus ou moins compliquées, etc. En général, on a besoin d'acier, on a besoin de béton pour protéger les personnes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à horizon de 100 000 ans, aucun acier, aucun béton, personne n'est capable d'apporter la démonstration que ça tient.
C'est une échelle qu'on ne connaît pas l'industrie. Quoi.
C'est pas l'échelle habituelle, d'aucune manière. Et en réalité, quand on raisonne à 100 000 ans, la seule chose et les seuls horizons où on a des références scientifiques qui permettent de dire des choses, c'est la géologie, justement. Et la géologie a, quand on regarde des séismes, quand on regarde la Terre, quoi, la manière dont la Terre évolue, là, on est dans l'échelle de temps. Et c'est pour ça. C'est pour ça que la solution du stockage souterrain, qui fondamentalement s'appuie sur la géologie pour garantir la sûreté, que cette solution-là a été étudiée comme une solution de référence. Oh. D'autres doivent être étudiées. La loi française prévoit qu'il y a de la recherche qui est faite sur d'autres voies. Et ces recherches sont menées. Pour l'instant, elles n'ont pas apporté d'autres solutions.
Il y avait quand même quelque chose d'intrigant dans cette thèse de Lenny Patino. C'était cette notion de worst case, c'est ce qu'on appelle le pire des cas dans la question du gestion de risque. Les scientifiques retiennent des hypothèses en se plaçant dans le pire des cas. Et un responsable à l'ANDRA rétorque, rapporte ce travail, que ça se négocie, le worst case. Mais ça ne se négocie pas. Et vous le savez à l'ARS que ça ne se négocie pas.
Ça fait partie des discussions. Enfin, le rôle, je reviens sur l'attitude interrogative, puisque on en a parlé déjà. Ça consiste justement à imaginer des scénarios des worst cases, plus ou moins worst. Et ça fait partie de la discussion. Imaginons que. Et puis, trois petits points. Il faut imaginer un scénario pire, plus pire, si vous me passez l'expression. Et ça fait partie de la discussion. Encore une fois, on est en train de parler d'horizon de temps, 100 000 ans, qui nous oblige à penser l'impensable. Et donc, ça fait partie. Donc, nécessairement, il y a de la discussion. Et heureusement. Donc... Pardon.
Voilà, et le jeu des acteurs se fait autour d'enjeux considérables, financiers, énergétiques et sociaux, politiques, affectifs, symboliques, ça fait beaucoup. Restez avec nous, Pierre-Franck Chevet, on en parle après le journal de 8h.